Bonjour Fabrice Criard.
Bonjour.
Donc vous êtes psychologue de l'éducation nationale à Saint-Jean-d'Angély.
Tout à fait.
Dans quels établissements vous intervenez ?
Alors, comme beaucoup de mes collègues, les psychologues de l'éducation nationale interviennent dans des collèges, des lycées généraux et technologiques et des lycées pro. Personnellement, je suis en charge du lycée Audouin-Dubreuil à Saint-Jean-d'Angély, auquel je travaille avec des élèves qui sont en seconde, première et terminale, soit générale, soit technologique, par exemple le bac STMG. Et aussi, on a une filière professionnelle où on a des bacs pro dans le domaine du commerce et de l'aide à la personne. À côté de ça, j'ai également une permanence dans un collège de secteur, un petit collège, le petit collège d'Aulnay. Et bien évidemment, comme tout PsyEN, j'ai également des permanences au CIO de Saint-Jean-d'Angély, où là, je reçois tout type d'individus, même des adultes.
Très bien. Effectivement, le but de notre intervention cet après-midi, c'est de nous présenter votre métier. Vous m'entendez ? C'est bien ? Parce qu'il y a beaucoup
Alors,
de monde cet après-midi.
Il y a beaucoup de bruit, mais j'essaie, je tends l'oreille.
Donc, présentation de votre métier et de vos missions. Donc, qu'est-ce qu'un psychologue de l'éducation nationale ?
Alors, bon, c'est quelque chose qui va être assez difficile à définir en quelques mots, mais il suffit de prendre déjà l'intitulé de notre métier. Donc, nous sommes des psychologues de l'éducation nationale, spécialité éducation, développement et conseil en orientation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au sein des établissements, notre rôle est d'accompagner les élèves, on va dire, dans deux grands domaines. Le domaine de l'adaptation à la scolarité. Donc là, on peut rencontrer des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, qui rencontrent des difficultés personnelles, d'où le rôle aussi de psychologue, afin de les accompagner à essayer de trouver des solutions ou essayer de trouver des solutions avec les enseignants ou avec les familles, par exemple. Donc ça, c'est un premier rôle. Le deuxième rôle sur lequel on est le plus connu, souvent, on nous appelle souvent en établissement les conseillers ou les conseillères d'orientation, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'orientation et voire même ce que j'appellerais l'affectation, puisqu'on ne retient que le résultat. C'est-à-dire, je suis en troisième, je vais en seconde générale et technologique, je suis en troisième, je rentre dans un CAP de maçonnerie ou je vais dans un bac pro cuisine. Et puis, bien sûr, là, on est sur le salon Passerelle. Actuellement, ce qu'on parle beaucoup, c'est Parcoursup, c'est-à-dire que, bien évidemment, les conseillers d'orientation viennent accompagner les élèves de terminale, même parfois de première, sur leur questionnement, et on les aide à se projeter sur des formations possibles en fonction de leurs appétences, en fonction également de leur capacité scolaire, de leur mobilité géographique. Voilà, on essaie d'accompagner. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail. Il y a également dans chaque établissement deux professeurs principaux qui accompagnent les élèves. Et je dirais la famille accompagne. Et voilà. Donc beaucoup de gens concourent à aider les jeunes qui, des fois, sont très stressés par cette orientation parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande de choisir leur vie. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis plus tout jeune. Et donc j'ai pas mal connu beaucoup d'élèves. Et j'ai suivi des élèves pendant des années en leur envoyant des mails et certains qui 5-6 ans après me répondaient encore. Beaucoup me disaient toujours « je suis surpris de ce que je suis devenu, je ne pouvais même pas le deviner ». Donc ce que j'essaie de faire avec eux aussi, c'est de dédramatiser cette première orientation post-bac puisqu'on a le droit à l'erreur, donc certains se trompent. Des fois, certains vont dans des filières où malheureusement, ils n'ont pas forcément les capacités. Mais on se rend compte que c'est toujours un apprentissage et qu'à grâce à ça, ils vont être capables de rebondir et après refaire un autre type de formation, des fois en repassant par Parcoursup. Donc notre travail, c'est vraiment un travail d'accompagnement, de réassurance et puis je dirais aussi d'essayer de les aider à trouver les premières pistes pour qu'ils puissent commencer à se projeter.
Donc, est-ce que vous rencontrez, c'est une obligation ? Est-ce qu'ils y viennent volontairement ou est-ce qu'il y a aussi des ateliers collectifs ? Enfin, comment vous rencontrez les jeunes ?
Alors, bien évidemment, ça va dépendre de l'établissement où on intervient, donc de la volonté du chef d'établissement d'organiser l'orientation dans son établissement. Ça dépend aussi, bien sûr, de la personnalité du conseiller ou de la conseillère, du PsyEN ou de la PsyEN. Traditionnellement, la base, c'est l'entretien. C'est-à-dire que on a tous et toutes des permanences obligatoires à faire dans les établissements dont nous avons la charge. Donc là, les élèves prennent rendez-vous souvent auprès de la vie scolaire, etc. Et là, c'est sur le volontariat. C'est-à-dire qu'en définitive, l'élève va prendre rendez-vous et il vient parce qu'il ressent le besoin. Bien évidemment, comme on ne travaille pas seul, beaucoup de jeunes viennent parce que leur prof principal ou un enseignant ou le CPE ou la CPE l'auront conseillé de venir nous voir. Mais on essaie qu'il n'y ait pas de violence. C'est-à-dire que ce n'est pas aller voir le conseiller d'orientation de punition. C'est vraiment dans l'idée qu'on va apporter une plus-value. Donc, ces jeunes vont être prêts de nouveau. Et donc, il y a des jeunes qui n'ont absolument pas besoin de nous parce que Bah parce que la famille déjà a des projets pour eux, parce que dans la famille on s'y connaît plutôt pas mal, parce que ils ont un grand frère, parce que le travail qu'ils ont pu faire avec leur prof principal leur a suffi pour trouver une réponse à leur questionnement. Et d'autres viennent nous voir parce que, excusez-moi du terme, mais des fois ils sont complètement paumés, et c'est très bien de venir nous voir. Moi un élève, il a justement, quand il vient et qu'il a aucune idée, mon boulot c'est de lui en donner. Mais également, d'autres viennent aussi pour se faire réassurer, pour voir s'ils ne sont pas trompés, etc. Donc pas de caractère obligatoire. Ensuite, au niveau de la communication de l'établissement, tout ce qui peut se passer en établissement, tout ce qui va être de l'ordre du travail, on va dire en atelier, etc., maintenant, et de la responsabilité principalement des profs principaux qui vont accompagner les jeunes. Mais bien évidemment, moi ou certains de mes collègues, des fois, nous pouvons participer à ce travail collectif. Personnellement, moi, dans les établissements où j'interviens, je fais obligatoirement des informations collectives pour que, en début d'année, par exemple, au terminal, je leur explique comment chercher son parcours sup, comment se représenter le monde du supérieur. Et là, dans une semaine, je vais aller travailler sur l'inscription, sur comment on constitue son dossier, ensuite comment on obtient des réponses et comment on y répond. Alors, bien évidemment, on va aussi essayer, bien sûr, par exemple, vous voyez là, les établissements envoient leurs élèves volontaires souvent au salon passerelle, et des fois on fait venir des formations aussi, et moi j'aime bien faire venir des anciens élèves dans mon établissement pour qu'ils puissent témoigner de leur histoire et que justement qu'il y ait un côté dédramatisant et même une certaine proximité entre un jeune qui a une ou deux années du supérieur. Des fois le message place mieux que si on fait venir un enseignant.
Totalement, les témoignages sont toujours plus forts qu'une plateforme, ou je dis que les témoignages sont toujours plus forts,
oui,
finalement, ben, en transmission et en lien, que
l'humain est toujours, voilà, a toujours une supériorité, hein. Je pense que la crise du Covid nous l'a montré.
Alors dans mes petites questions, qu'est-ce qu'un test ou un questionnaire d'intérêt? Est-ce que vous utilisez ce genre de choses?
Oui, ça nous arrive. Un questionnaire d'intérêt, pour moi, est surtout utile quand vraiment le jeune...
Alors, je vous laisse mettre votre casque parce qu'on s'entendra beaucoup mieux. Merci.
Voilà. Donc le questionnaire d'intérêt peut être, à mon avis, assez utile lorsque le jeune a envie de ranger un petit peu ses projections, c'est les choses qui peuvent l'intéresser. Donc on va l'utiliser, je pense par exemple, il y en a un qui s'appelle GPO, que tous les conseillers d'orientation, tous les PSYON, excusez-moi, possèdent. L'expérience que j'ai, je me rends compte que des fois, en 10-15 minutes d'entretien, j'arrive à obtenir les mêmes résultats. Puisque l'élève ne parle pas d'avenir, mais il parle de lui lorsqu'il répond à un test. Donc ce qu'on obtient, c'est plutôt, excusez-moi du terme, mais son petit nombril. C'est en gros ce qu'il pense à un moment donné. Donc on peut construire à partir de ça. Mais des fois, par exemple, si je vous donne un exemple très concret, si je fais passer un test à un élève de 3e garçon, il y a de grandes chances que l'intérêt numéro 1, ce soit le sport. Est-ce que c'est parce qu'il veut s'orienter dans l'univers du sport? Non, souvent, parce que quand il va falloir choisir des activités ou des métiers dans le test, il va être attiré par ça, parce que c'est un endroit, souvent, le petit garçon de 14 ans, souvent ils sont sportifs et ils valorisent beaucoup parce que déjà c'est plus l'école, parce que c'est le plaisir, etc. Donc il faut savoir, même quand on leur fait passer un test, être en capacité ensuite d'en discuter avec eux pour, on va dire, essayer de trouver ce qui vraiment peut leur donner une envie pour se projeter vers l'avenir.
Très bien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui ne sait pas du tout vers quoi aller? On arrive sur Parcoursup, on est en terminale, mais il ne sait vraiment pas. Comment on l'accompagne? Comment on peut... Comment vous faites?
Alors, déjà par rapport à cette question, la première chose, c'est qu'en définitive, il n'y a pas de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est qu'en définitive, il y a des fois l'embarras du choix. Ils ne savent pas plutôt quoi choisir.
Oui, enfin, alors, travailler dans un établissement, puisque je suis référente jeunesse, c'est vrai que souvent j'entends dire... Je sais pas.
Oui.
Enfin, moi, je l'entends beaucoup.
Alors, derrière, il y a aussi le sentiment de la peur du choix. C'est-à-dire que ça soit au niveau 3e ou, par exemple, si vous prenez le niveau 3e, des fois, le choix, quand un jeune, par exemple, doit se décider pour une filière professionnelle, il a l'impression aussi qu'il va s'enfermer pour toute sa vie dans un métier, ce qui est relativement faux dans notre société. Dans le post-bac, c'est pareil. C'est-à-dire que derrière, il y a une première étape, c'est déjà une étape, je vous l'expliquais tout à l'heure, de réassurance. C'est-à-dire qu'il est normal d'être dans l'expectative face à un choix. La deuxième chose, c'est que des fois, c'est faire un choix parmi de multiples possibles ou des possibles que je ne connais pas. Et ça, c'est relativement intéressant. Je le vois beaucoup avec les terminales. C'est-à-dire que les terminales, maintenant, par exemple, les terminales générales, ont des spécialités. Et ils ne savent pas quel est le pendant de leur spécialité dans le supérieur. Si moi, on me dit SES, HLP, tout de suite, dans ma tête, bim, il y a droit qui s'affiche. Si on me dit SES, histoire géo, ou plutôt SES maths, ça va être toute une fac de sciences éco. Et puis, à partir de ça, je vais pouvoir leur donner des pistes. Et quand on leur donne, on leur ouvre des pistes, et qu'en plus, après, on les met sur Parcoursup, qu'on le montre, comment trouver de l'information, petit à petit, ils se débloquent et ils finissent par trouver ce qu'ils souhaitent.
Ce qui est très important, c'est la recherche de l'autonomie aussi, voilà. Dans la recherche d'informations. Il faut savoir aussi, je crois qu'au lycée, on peut demander à réaliser des stages en entreprise.
Alors, il y a un stage obligatoire qui est maintenant organisé en seconde. Donc certains s'en saisissent, d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé, ne le font pas ou ne s'investissent pas dans le stage. Donc ça peut être un bon moyen de découvrir le monde professionnel. Mais derrière, c'est découvrir le monde professionnel. Pareil, quand on fait une rencontre d'un professionnel, on a l'image que de ce professionnel. On n'a pas l'image du métier en entier. Mais c'est déjà très intéressant.
Ça, il faut quelques années avant de connaître un métier, un monde.
Souvent, pour connaître un métier, il faut l'exercer. Donc voilà. Donc bon, c'est difficile a priori, mais c'est bien d'avoir déjà une représentation du métier un peu plus concrète que simplement voir une vidéo sur Internet. Et la deuxième chose, c'est que certains, ils peuvent demander de faire des tout petits stages lorsqu'ils sont en première et terminale. Ça se négocie avec l'établissement, ils peuvent avoir des conventions de stage. Certains utilisent même leurs vacances pour aller faire un stage. Et je me rappelle d'une jeune fille qui voulait devenir orthophoniste. Et elle avait utilisé ses vacances pour aller passer 3 jours avec une orthophoniste. Et ça lui a vraiment donné cette vocation. Mais vous voyez, il faut avoir déjà l'idée du stage. Donc vous voyez, déjà rien que ça, c'est compliqué.
Je vous remercie pour toutes ces réponses.
Je vous en prie.
Et vous-même, est-ce que vous avez été conseiller d'orientation puis PsyEN directement ou avez-vous connu d'autres horizons ?
Bon, là aussi, ça va prendre beaucoup de temps, mais je vais vous raconter un peu mon cursus. J'ai eu un bac général, plutôt scientifique, moi-même scientifique. Ensuite, je suis parti faire du business. C'était le DUT Tech de Co à La Rochelle. Donc voilà, je suis un ancien Rochelais. Et puis, ça m'a pas plu, le monde du travail, ça m'attirait pas. Donc je suis parti un peu au hasard en fac de psycho. Arrivé en fac de psycho, je vais même vous raconter une anecdote. J'étais entre psycho et histoire et j'ai jeté une pièce de 5 francs l'air. Alors 5 francs pour les jeunes auditeurs, c'est l'ancienne monnaie. Et c'est tombé sur pile, donc je suis parti en psycho. Et puis en psycho, ça m'a plus ou moins plu. Et puis j'ai eu un petit déclic à un moment. Vous voyez comme quoi c'est des opportunités. Je m'occupais de jeunes dans un club de basket, donc je me suis dit pourquoi pas être prof des écoles. Donc je suis devenu prof des écoles. J'ai découvert ce métier et comme vous l'avez dit, je l'ai vécu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il est dur ce métier, je m'en suis pas senti les épaules. Donc j'ai démissionné de mon poste, j'ai repassé le concours à l'époque de conseil orientation psychologue. Et là, j'ai trouvé un métier qui m'épanouit depuis 22 ans.
Et je vous remercie pour ce témoignage, parce que ça prouve bien que...
Il n'y a pas de parcours tout droit.
Exactement.
Il y en a quelques-uns. Je vais faire un petit clin d'œil à mes collègues enseignants que j'apprécie beaucoup. En gros, les seuls parcours tout droit, souvent dans l'éducation nationale, c'est les profs.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc bon, il y a d'autres types de parcours. Mais maintenant, je me rends compte que même parmi mes collègues profs, beaucoup, par exemple, je vois des gens qui sont devenus ingénieurs, qui sont devenus profs de maths ou profs de technologie. Donc on voit bien qu'il y a quand même maintenant beaucoup plus de mobilité dans la société et que l'orientation ne se décide pas, du moins. Je dirais le métier ne se décide pas forcément en terminale.
Ou avec une pièce de 5 francs.
Eh bien, ça marche bien ça aussi. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.
Nous allons écouter un petit peu de musique avant la prochaine interview. Merci.